c'est quoi un chrétien? Et j'avais deux mots un petit peu qui étaient dans ma tête. Est-ce qu'un chrétien, c'est un croyant en Jésus? Ou est-ce qu'un chrétien, c'est un disciple de Jésus? Et je me suis rappelé cette grande commission de Matthieu 28, que vous pouvez prendre dans vos Bibles, Matthieu 28, mais ce ne sera pas notre passage clé de ce matin, mais un support d'introduction. En Matthieu 28, au verset 19 et 20, donc c'est les derniers versets de l'épître de l'évangile de Matthieu, Jésus dit quelque chose aux apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est quelque chose de formidable que d'être un croyant en Jésus. Quelque chose de formidable que de découvrir que Dieu s'est fait homme. Moi qui suis fait à l'image de Dieu, Dieu est venu se mettre dans ma peau d'être humain pour vivre une vie humaine de manière parfaite et totale. Et pour pouvoir se substituer à moi quant à la dette que j'ai par rapport au péché. Je suis quelqu'un qui n'est pas tout réussi quant au bien à faire. J'ai abîmé, je me suis abîmé, j'ai abîmé d'autres. Et ce qu'on abîme est rarement réparable. Et de manière plus globale, ce que Dieu dit de cela, c'est que ce qu'on gagne avec le péché, le salaire du péché, c'est la mort, c'est ma mort. Et voilà que Jésus a dit, mais moi, je vais mourir pour toi. Je vais porter la peine de ton péché, pour que tes péchés soient pardonnés et pour que tu puisses hériter de la vie éternelle par la foi et la repentance. La foi en Jésus-Christ et la repentance envers Dieu. Amen. Et c'est déjà énorme quand un être humain fait ce chemin intérieur de vis-à-vis de Dieu, déjà de son existence, puis de sa dépendance et des comptes à rendre, un jour je serai devant Dieu. Et puis, ce chemin de sa manière de vivre, non seulement indépendante, mais impactante en péché qu'il commet, et où il se dit, mais ce chemin-là, va falloir que j'en trouve un meilleur, va falloir que ce chemin dans les ténèbres, loin de Dieu, coupé de lui, ça doit avoir une fin. Et je prends un nouveau chemin avec Jésus-Christ. Et c'est quelque chose vraiment de formidable que d'accueillir la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Quelle grâce! Et voilà une pénalité dont nous sommes sauvés. Cette pénalité du jugement à venir, où Jésus est notre avocat auprès du Père, où nous ne serons pas jugés avec le monde pour être condamnés, mais où nous nous présenterons avec Jésus à nos côtés devant le Père. Et je le dis même. Même si nous n'avons pas su bâtir avec des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, Néanmoins, Seigneur nous dit, ok, c'est dommage, et tu seras sauvé, et c'est dommage comme au travers du feu. Mais néanmoins, il y a cette grâce de Dieu qui sauve et qui me soustrait à la condamnation, à la mort, à la ruine, à la honte éternelle. Et je suis heureux de ce que le Seigneur m'a pardonné et de ce qu'il me prépare une place au ciel avec lui. Et Jésus dit aussi, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Voilà. Voilà un sujet d'une grande joie. Mais c'est dommage quand notre joie s'arrête là. C'est dommage lorsque nous ne bénéficions que de la moitié de la joie du repos d'âme que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais avec vous voir comment ne pas rester à la moitié de la route. Comment ne pas rester un croyant en Jésus, mais simplement un croyant en Jésus, mais pas un disciple. Et Jésus, toujours en Matthieu, mais au chapitre 11, donne une invitation formidable. Matthieu 11, prenez avec moi Matthieu 11, au verset 29, parce que Jésus connaît notre aujourd'hui, notre quotidien. Oui, il y a l'avenir. Oui, il y a le temps après notre passage sur terre. Mais en attendant, il y a notre passage sur terre. En attendant, il y a tout ce temps de notre existence, chaque jour qui passe, avec les défis du quotidien, où chacun nous vivons dans une société, dans une culture, dans un monde professionnel, de voisinage, familial, avec des corps physiques, avec un esprit. Et dans ce passage sur la terre, il y a bien des difficultés, bien des épreuves, bien des chagrins, qui résultent du péché d'abord, le péché des autres, dont je suis victime, en commençant dès le début de ma vie, dans mon enfance. Et puis, il y a ce péché dont je suis, mon propre péché, dont je suis aussi la victime et qui fait aussi du mal autour, mais dont je suis la victime. Et puis, il y a tout simplement les circonstances de la vie, les difficultés, les épreuves. Et le Seigneur sait que notre âme est loin d'être en repos. Le Seigneur sait que dans ce passage sur terre, être simplement un croyant en Jésus ne suffit pas à trouver le repos pour nos âmes. Et malheureusement, nous avons bien des églises qui se remplissent de croyants en Jésus. Mais c'est pas si sûr qu'elles se remplissent de disciples de Jésus. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on a la joie d'être soustrait au jugement et à la condamnation éternelle, mais on passe à côté de la joie du repos de notre âme ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que Jésus dit en Matthieu 11, verset 28? Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors là, on se dit, « Chouette !» Je viens à Jésus-Christ en tant que croyant en Jésus et moi qui suis fatigué, chargé, Je vais trouver le repos en Jésus en devenant un croyant en Jésus. Et dans notre expérience de vie chrétienne, ceux d'entre nous qui sont venus à Jésus-Christ par la foi et la repentance, n'avons-nous pas fait l'expérience de ressentir que nous sommes toujours fatigués, chargés de fardeaux, parfois accablés, et on se dit, je ne comprends pas, Jésus est entré dans ma vie, et ce repos de l'âme, je ne le rencontre pas, ou je ne le rencontre pas assez, ou je l'ai rencontré, mais en ce moment, c'est le vide. Et pourtant, je crois en lui. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a précisé son propos. Lorsqu'il dit de venir à lui, le verset 29 va préciser de quelle manière venir à lui pour trouver le repos de nos âmes. Et c'est ce qui fait la différence entre un croyant en Jésus et un disciple de Jésus, être disciple de Jésus tous les jours. Et à nouveau, et je crois bien que nous alternons des périodes où nous sommes disciples de Jésus et puis petit à petit nous devenons juste des croyants en Jésus. Et nous oublions et nous ne vivons plus ce disciple-là. Cette relation du disciple et de son maître. Alors Jésus dit ceci au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, il y a cette image du joug qui est donnée. Un joug, c'est une pièce de bois qu'on met soit sur les cornes, soit sur les épaules, le cou d'un animal, un cheval de trait, un bœuf. Et c'est cette pièce de bois qui va communiquer toute la puissance de traction à ce qui est attelé derrière. Que ce soit une charrue, que ce soit une charrette. Le joug le plus souvent est double, mais pas toujours. Il peut être sur un seul animal. Et je ne sais pas trop là si Jésus parle d'un joug double, sous lequel il nous invite à nous mettre en couple avec lui, peut-être. Et il y a cette idée de former un binôme, une équipe de deux avec Jésus, un couple. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans notre langage en français, on parle du lien conjugal, n'est-ce pas? Et conjugal, dans son étymologie, le jug, conjugal, c'est le joug. C'est le joug sous lequel on se met ensemble pour avoir une force de traction à deux. C'est les deux chevaux. Peut-être que c'est Jésus qui nous invite à nous mettre avec lui dans la seconde partie, à la deuxième place du joug sur lequel il s'est placé et qu'il va tirer avec nous. Et nous, on se dit, oh là là, mais moi je suis venu à Jésus-Christ, c'est pour être déchargé. On me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je n'ai plus envie de rien tirer. C'est fini. Moi, je crois que la vie chrétienne, on ne tire rien, on n'a plus de fardeau. Et Jésus nous dit, mais si tu es fatigué et chargé, viens te mettre sous mon joug, tu auras une charge à tirer, mais mon fardeau est léger, dit le verset 30. Il y a un fardeau, mais tu vas découvrir que ce qu'il y a à tirer, ce qu'il y a à porter est léger. Et dit mon joug est doux. Il y avait des jougs, donc ces pièces de bois, certaines qui étaient très inconfortables, et d'autres qu'on rembourrait pour éviter de blesser l'animal et que l'animal soit le plus confortable, aisé, à l'aise possible, pour que tout en tirant, eh bien finalement, ça reste pour lui quelque chose qui ne soit pas blessant. Et Jésus dit, voilà, faire équipe avec moi, être en binôme avec moi, il y a une charge à tirer. Ne crois pas qu'il n'y a pas une charge à tirer. Il y a un fardeau à tirer. Il y a un joug à porter. Mais de toute façon, si ce n'est pas mon joug, ce sera le joug de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas mon joug que tu portes, ce sera le joug du monde. Ce sera le joug de la chair. Ce sera le joug du péché. Ce sera le joug peut-être même de Satan. Mais il y a un joug à porter, prends le mien. Parce que le mien, il est doux. Et la charge qu'on tire, tu vas découvrir qu'elle est légère. Peut-être, lorsque Jésus dit « prenez mon joug », il ne pense peut-être pas au joug double, mais au joug simple. Et dans ce cas, ce serait plutôt un binôme agriculteur et animal de trait. Et ce travail commun en binôme de l'agriculteur qui a un champ à travailler et qui va le faire en équipe avec cet animal de trait. Et dans ce cas, c'est l'agriculteur qui dirige son attelage, qui donne ses instructions. Et c'est ce qui est dit, il dit « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Alors, est-ce que, en tant que chrétien, je suis venu à Jésus-Christ avec la fausse idée que j'allais être débarrassé de tout joug et de tout fardeau. Si je suis venu à Jésus-Christ comme cela, eh bien, j'ai besoin de me réaxer dans la vérité et de comprendre que si je ne tire pas le fardeau que Jésus-Christ me demande de tirer sous un joug avec lui, ça sera d'autres fardeaux, bien plus lourds, bien plus blessants, et d'autres jougs, bien plus autoritaires et contraignants, emprisonnants, sous lesquels je vais me mettre. Nous en venons maintenant à cette relation de disciple et de maître. Est-ce que je suis un croyant en Jésus-Christ ou est-ce que je suis un disciple? Et nous voyons cela lorsque Jésus dit « recevez mes instructions ». Le terme qui est utilisé ici, c'est « instruisez-vous de moi ». C'est le verbe qui a donné le mot « disciple ». C'est la même racine. « Matete apemou, instruisez-vous de moi ». Et le disciple, c'est « matetes ». Et il dit en fait « disciplinez-vous de moi, soyez mes disciples, instruisez-vous en moi ». Là, lorsque Jésus dit de venir à lui, il demande de venir à lui dans une relation où nous allons nous instruire de lui comme un disciple s'instruit de son maître. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que c'est alors, nous dit Jésus, que vous trouverez du repos pour vos âmes. Et là, j'aimerais faire une petite incursion dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 32, un très beau verset. Deutéronome 32. Dans lequel nous découvrons toute la plénitude, toute la beauté qu'il y a dans le fait de recevoir les instructions de la part de Dieu. Deutéronome 32, au verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Il y a, à l'instar du livre des Proverbes, cette idée que lorsque l'instruction vient de l'Éternel, lorsque l'instruction vient de la parole de Dieu, c'est comme une eau bienfaisante qui va faire verdir l'herbe desséchée. En ce moment, dans notre région, et en ce mois d'août, à moins qu'on arrose abondamment son jardin, l'herbe est sèche et jaune. Et on a eu chaud, et on était bien content de pouvoir boire. On sent cette chaleur qui pèse, et on a soif. Et Jésus s'adresse à ceux qui sont fatigués et chargés. Il s'adresse à nous en tant qu'êtres humains en nous disant « Regarde dans le fond de ton âme, dans le fond de ton cœur et vois la fatigue et la charge qui est la tienne. Et je veux faire équipe avec toi. » Pas juste que tu sois pardonné de tes péchés vis-à-vis du jugement à venir. Pas juste que tu aies la vie éternelle et que lorsque tu seras au ciel avec moi, ce sera super. Et si on parlait de ta fatigue et de ta charge d'aujourd'hui, de maintenant? Est-ce que tu veux qu'on s'y mette ensemble? Eh bien, les instructions, lorsqu'elles viennent de l'Éternel, elles se répandent comme la pluie. Elles sont comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Nous avons souvent une tendance à voir les instructions du Seigneur, son enseignement, comme quelque chose d'un petit peu peut-être contraignant et pénible. On se dit, oh là là, moi je suis un croyant en Jésus-Christ, mais voilà que la Bible dit ceci, la Bible dit cela, il faudrait tout conjuguer, ce qu'elle dit. C'est un petit peu lourd là, ce fardeau-là. C'est un petit peu contraignant, c'est toute une charge que cette vie chrétienne. Et on peut faire l'erreur de rester un croyant et de ne pas devenir un disciple. Et on peut faire cette erreur à cause d'une autre erreur qui est de ne pas voir et de ne pas comprendre que les instructions du Seigneur, ce n'est pas des grêlons qui tombent et qui détruisent tout sur leur passage, qui cabossent votre voiture et qui font exploser votre pare-brise. C'est une ondée, une pluie bienfaisante qui vient faire verdir le champ de notre existence de nous. Amen. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect de joug et de fardeau, mais le joug est aisé, le fardeau léger. Ailleurs, il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Croyez-le, vivez-le, et vous allez voir que on va réellement pouvoir s'attaquer à cette fatigue et à cette charge que votre âme porte et dont je veux vous soulager, dont je veux vous délester. Pourquoi est-ce que tu continues dans ta vie chrétienne avec une fatigue et une charge qui viennent de la chair, qui viennent du monde, qui viennent du péché? Laisse ce jour-là. Prends celui du Seigneur Jésus. Et pour cela, il dit recevez mes instructions. Alors moi, ça m'interpelle. Parce que on est de moins en moins dans une société en Occident où on aime s'instruire. L'instruction est plus vécue comme une contrainte que comme une bénédiction. Et ça commence par l'école, le collège, le lycée. Nos jeunes n'ont pas une appétence particulière pour le fait de s'instruire. Mais notre société va plutôt nous pousser à nous divertir. Plutôt nous divertir que nous instruire. Le choix qu'on va faire dans des séries, dans des émissions qu'on regarde est rarement instructif, plutôt pour se détendre, pour se faire plaisir. Et on reste intellectuellement très pauvre, sauf lorsque, bien sûr, on rentre sous un joug, le joug de l'éducation nationale, par exemple. Alors, si on faisait un référendum pour savoir combien d'enfants préfèrent réduire la semaine scolaire à 2 jours plutôt que 4, je pense qu'on remporterait le référendum. Hein. On ne leur demande pas leur avis, on se demande pourquoi. Parce qu'on garde quand même un peu cette idée que on a besoin d'un peuple instruit. Et on va de même pour le chrétien. Et je pense que nous devons faire attention, d'autant plus qu'aujourd'hui, on ne nous pousse pas, en tout cas, ce que le monde propose dans son divertissement est tellement accaparant, alléchant, il couvre tellement de choses que aller vers l'instruction nous paraît un effort, une chose difficile, un joug pesant et un fardeau énorme. Alors on y passe, on fait des études pour avoir quand même un métier, pour avoir un salaire, etc. Mais quelque part, pour beaucoup d'entre nous, le fait de s'instruire est devenu quelque chose un petit peu qui nous rebute. Et on le retrouve dans le vécu de l'Église, on le retrouve dans le vécu de la vie chrétienne, où recevoir les instructions du Seigneur Jésus sont quelque chose d'un petit peu rebutant. Il faut que je sois instruit. Instruit de la parole de Dieu, instruit de ce que Dieu veut me dire, veut poser, et poser de manière de plus en plus ancrée et profonde, pour que ma fatigue et ma charge puissent être déposées. Il dit, venez à moi et vous trouverez le repos. Recevez mes instructions, prenez mon joug et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et là, à ce stade-là, je vais dire quelque chose de très clair. On ne trouvera pas le repos pour nos âmes tant qu'on ne prendra pas le joug et qu'on ne recevra pas les instructions du Seigneur Jésus. On restera un croyant en Jésus, mais on ne sera pas un disciple. Et le disciple s'instruit. Il s'instruit du maître, il s'instruit dans une relation vivante et personnelle avec le maître. C'est la différence entre un élève et un disciple. Un élève, il y a de la matière à apprendre, et qu'importe le professeur du moment qu'on lui dispense cette matière. Un disciple, il apprend du maître, non pas juste une matière un peu technique, mais il apprend du caractère et de l'identité du maître. Et Jésus dit, instruisez-vous de moi, en moi, auprès de moi. C'est cette relation personnelle, proche, vivante de tous les jours avec Jésus, où on apprend de lui, on apprend avec lui, on apprend en lui. Ça commence par reconnaître que je suis ignorant. Et là, ça touche peut-être notre orgueil. Parfois, on croit en Jésus, on devient disciple de Jésus-Christ, et puis très rapidement, on pense avoir à peu près cerné les grandes thématiques de la Bible. On trace notre route et on oublie que ce n'est que le début du chemin, que le début de la route. La parole de Dieu est d'une profondeur et d'une richesse autant que notre âme humaine est complexe. Et plus on avance, et plus on se rend compte à quel point notre être intérieur est quelque chose de complexe. Et que ce n'est pas en deux temps, trois mouvements, en une année de vie chrétienne, qu'on va découvrir et être instruit de la pensée de Dieu pour que notre âme fatiguée et chargée trouve le repos. C'est tout un chemin. Et ça commence par dire, Seigneur, j'ai besoin d'être instruit parce que je suis ignorant. Et parfois, il y a une sorte de suffisance du chrétien qui veut vivre de la vie chrétienne que le côté peut-être dynamique et joyeux, mais où l'aspect du joug aisé, doux, et du fardeau léger, mais fardeau quand même attiré, dire cet aspect-là, ce disciple-là, ça me fatigue. Je ne suis pas bien sûr qu'un chrétien est appelé à ça. Et il ne s'instruit pas du Seigneur. S'instruire, c'est Dieu qui parle à notre intelligence. Vous noterez que le Seigneur ne nous demande pas de faire ceci ou de faire cela sans s'adresser à notre intelligence et à notre compréhension. Plusieurs fois, Jésus disait à ses disciples, comprenez-vous ce que je dis. Et ce n'est pas une sorte de recueil de choses à faire et à mettre en place sans comprendre pourquoi on les fait, pourquoi on les met en place. Et la parole de Dieu est d'une richesse qui nous permet de comprendre les choses. Et c'est ça, être instruit. Seigneur veut nous instruire, pas juste nous commander en disant ben voilà, je te donne un ordre et tu exécutes. Seigneur nous demande de recevoir ses instructions. Alors bien sûr, l'instruction a un côté d'ordre, un aspect. Lorsqu'on donne ses instructions à quelqu'un, c'est dans l'espoir qu'il les exécute. Mais l'instruction, ici, dans ce texte-là, c'est vraiment dans cette relation de disciple qui est enseigné du maître et que le maître, à qui le maître explique son enseignement. Et cela se répercute dans la vie familiale et dans la vie d'église. Combien de parents disent juste à leurs enfants, ils les éduquent, mais ils ne les instruisent pas. Ils les éduquent en disant, bah, tu sais, ça, c'est pas bien. Ça, non, je ne veux pas que tu fasses. Arrête de te comporter comme ça. Plein de règles, et puis voilà, on des valeurs qui sont donnés, mais peu d'explications. Il y a peu de parents qui vont expliquer pourquoi à leurs enfants. qui vont creuser les choses et qui vont les instruire dans la même relation de disciple et du maître. Cette relation où on va donner des préceptes, mais on va expliquer le bien fondé de ces préceptes. On va aller au cœur des choses. Et malheureusement, lorsqu'on s'en passe, par exemple en famille, on apprend à nos enfants un comportement, on les dresse. Ils sont bien dressés, vos enfants. Mais on ne s'est pas dressé à leur cœur. On n'a pas expliqué les choses. Et dans l'Église, c'est la même chose. Le Seigneur nous donne abondamment dans sa parole de quoi comprendre ses préceptes, de quoi comprendre ses commandements. Alors on arrive peut-être à 18 ans, 19 ans, et on se demande, oui, je comprends pas pourquoi mes parents, enfin, le tatouage, pourquoi ils sont contre, c'est pas bien le tatouage. Il y a toute une réflexion. Il y a des raisons éminemment profondes, mais si on n'instruit pas, ça reste quelque chose qui est posé là et qu'on ne comprend pas. En matière de sexualité, oui, la sexualité, c'est dans le cadre du mariage, strictement, et c'est tout. Il n'y a pas d'instruction si on ne parle pas à l'intelligence et à la compréhension, on passe à côté des choses. Et jamais le Seigneur n'agit comme ça. Alors, ça demande de fouiller la parole, de sonder la parole, de fouiller, de sonder la pensée du Seigneur. Mais nous avons le Saint-Esprit pour cela. Amen. Et le Seigneur nous amène à comprendre le sens de ses préceptes. C'est vraiment dans une relation où le Seigneur nous instruit que nous allons pouvoir vivre une existence où la fatigue et la charge peuvent enfin et petit à petit, domaine après domaine, trouver du repos. S'instruire demande un certain effort. Parce que ça combat l'ignorance. L'instruction rencontre un obstacle qui est un ancrage dans l'ignorance. Et s'instruire demande un certain effort. Et un chrétien est invité à ne pas rester juste un croyant en Jésus, mais quelqu'un qui s'instruit en Jésus, de Jésus, qui est un disciple tous les jours, dans les domaines différents de sa vie, et les domaines différents de notre vie sont tellement multiples et complexes, mais ça, c'est notre vie, nous avons été créés complexes. Si Dieu crée des choses simples, serait-il glorifié? L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ne soyons pas étonnés que les méandres de notre âme. On se dit, je ne pensais pas que c'était si complexe. Ben oui, ça l'est. Et donc, dans mon existence, je ne vais pas avancer de manière linéaire dans un fleuve tranquille. Mais j'ai besoin d'une instruction renouvelée et profonde en Jésus, quel que soit mon âge. J'ai 20 ans, j'ai 40 ans, j'ai 80 ans. Le Seigneur a encore largement de quoi m'instruire pour cette période de ma vie et les défis que rencontre mon âme aujourd'hui et maintenant. Et puis, L'image du joug et de cette relation de disciple nous dit une dernière chose sur le fait de s'instruire en Jésus, qui a été ici traduit par « recevez mes instructions ». Il s'agit de les mettre en pratique. Ailleurs, l'épître de Jacques nous dira « mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter seulement ». Et nous l'avons vu, il termine d'ailleurs en disant « celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ». Nous retrouvons cette idée de Jésus qui dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, mais recevez mes instructions ». Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes, des jeunes ou des vieux, qui désiront recevoir les instructions de Jésus, qui nous positionnons tous les jours comme des disciples? Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui? De quoi tu veux m'instruire? Et oui, il y a dans cette instruction une réflexion, un effort, une intégration, une digestion, une application à moi-même qui n'est pas évidente, et on préfère vivre souvent de manière insouciante, sans se poser trop de questions, sans trop se prendre la tête, surtout lorsque ça rencontre une certaine résistance de notre chair. Mais c'est à ça que le Seigneur nous invite. Ne passons pas à côté de la bénédiction. Quel dommage lorsqu'on reste juste un croyant en Jésus. On est sauvé, on est pardonné. Nos noms sont inscrits dans les cieux et on a la vie éternelle. Mais quel dommage qu'en attendant de rejoindre la demeure du Père, nous le fassions en restant fatigués et chargés dans nos âmes. Venons à Jésus pour rentrer dans son repos, pour trouver en lui le repos. Mais pour cela, devenons, soyons, restons, restons des disciples. Et nous trouverons le repos pour nos âmes. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as une grâce merveilleuse, un cadeau pour notre avenir éternel. Mais tu as aussi des bénédictions pour aujourd'hui, pour nos défis ici sur la terre, pour le temps de notre passage ici-bas, Seigneur. Tu désires pas qu'on reste fatigué et chargé. Et tu veux nous donner la joie du repos de notre âme en toi. Seigneur, pour cela, tu nous invites à, non pas à rester des croyants, mais à devenir des disciples. Seigneur, que nous puissions nous examiner, nous-mêmes, chacun. Et tu vois les périodes de notre vie où nous sommes disciples et celles où nous changeons de statut. Nous redevenons de simples croyants en Jésus. Et nous ne sommes plus d'ici. Et au fond de notre cœur, on le sait. Seigneur, que nous puissions recevoir tes instructions, les mettre en œuvre dans notre vie, mais chercher à comprendre ce que tu veux nous dire. Tu veux nous renouveler notre compréhension, notre intelligence, pour qu'on comprenne, pour qu'on discerne ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, souvent c'est parce que le fait qu'elle soit bonne, agréable et parfaite nous échappe complètement parce qu'on n'y comprend rien, parce qu'on ne s'instruit pas. Parce qu'on ne s'instruit pas à tes pieds. Parce qu'on ne veut peut-être pas de ce joug et de ce fardeau léger. On veut être débarrassé de tout, y compris de celui-là. Seigneur, aide-nous à ne pas faire cette erreur. Pour ne pas être privé, Seigneur, de la joie de ton repos. De la joie de ton œuvre dans notre âme, en guérison, en consolation, en restauration, en joie. Seigneur, que notre Église puisse être une Église de disciples, pas juste une Église de croyants. Que nous puissions prendre cette décision et accepter de porter le joug, mais ton joug, et de nous mettre à l'écoute et à la pratique de tes instructions, avec intelligence, avec ton Saint-Esprit. Non pas pour vivre une vie légaliste, non pas pour vivre une vie de préceptes, mais pour vivre une vie qui comprend ta volonté, qui la saisit, qui la perçoit, qui l'aime. Au nom de Jésus. Amen.